Les cages flottantes, chapitre 2. À fond de cale. À ces paroles du second, le commandant, qui venait de constater la présence dans sa poche de la clé du cadenas, se dirigea vers la porte de sa cabine comme un fou. De Vilaine l'arrêta. « Mon commandant, lui dit-il, prenez garde, ne sortez pas dans cet état. Nous avons le plus grand intérêt à cacher l'événement autant que possible. » Chéri Bibi ne saurait être loin, il ne peut nous échapper. Nous le rattraperons toujours bien, mais tâchons de remettre la main dessus sans qu'on se doute de rien. Comme vous le disiez tout à l'heure, il se passe des choses que nous ne savons pas. L'inspecteur, auquel je n'ai encore rien dit, vient de me faire un rapport des plus alarmants sur l'état d'esprit des entrepons. On prépare quelque chose, et la disparition de Chéri Bibi n'est peut-être que le commencement, ou le signal de cette chose-là. J'ai consigné le sergent et les deux gardiens qui savent seuls la vérité, et ils m'ont juré de n'en souffler mot à personne. Faisons notre enquête nous-mêmes, sans avoir l'air de rien. Après, nous prendrons une résolution. Agir autrement serait encourager la chiourme et affoler peut-être le personnel du bord, qui a la terreur de Chéri Bibi.
Vous avez raison, acquiesça Barachon. Du calme. Mais c'est épouvantable.
Redescendons tranquillement au cachot, fit le lieutenant, et nous verrons bien. J'ai dans ma poche ma petite lanterne sourde. Chéri Bibi doit être dans la cale. Voyons par où il s'est enfui.
Et les cadavres des gardiens?
Ils sont restés dans le cachot. Mon avis est qu'on ne les transporte à l'infirmerie que cette nuit.
Gémit Barachon hors de lui. « C'est affreux! Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Allons !»
Ils sortirent du carré en affectant autant que possible un air indifférent.
« J'ai doublé les sentinelles, sous prétexte du mauvais esprit de la chiourme, et mis, à tout hasard, des surveillants près de chaque embarcation, » annonça le second.
« Vous avez bien fait !» Mais il ne se risquerait pas sur le pont en plein jour.
On ne sait jamais avec un homme comme ça. Maintenant il est armé. Il a pris les revolvers et les cartouches des gardiens assassinés. Il faut s'attendre à tout.
Ils descendirent à nouveau dans les entrepons. Chose extraordinaire et qui leur parut de mauvais augure, un silence incroyable régnait dans les cages. On n'entendait pas une voix, pas un mot. Et on ne remuait plus une patte depuis que le bâtiment avait repris son parfait équilibre. Le vent subitement tombait. Derrière les barreaux, les forçats, immobiles, les regardaient passer. Cependant, en traversant la batterie basse, il y eut un étrange ricanement derrière la cage des financiers. De Vilaine se retourna, le ricanement cessa. Derrière eux, un garde-chourme cria à travers les barreaux de la cage.
« Vous avez fini de vous ficher du monde, vous, boule de gomme ?»«
Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, » ajouta le surveillant. « Tout à l'heure, ils faisaient un chambard de tous les diables. Maintenant, on n'entend plus rien que le rire de cet imbécile. »
Les officiers descendirent encore. Pour bien comprendre les événements qui vont se dérouler, dans ce cadre spécial d'un transport de guerre affrété pour le service de Cayenne, il est utile d'imaginer dans ses grandes lignes la disposition de ce bâtiment. 5 lignes parallèles le divisent dans sa longueur. Ce sont les ponts, espacés l'un de l'autre de 1,80 m. Au-dessus de la première ligne, nous avons toute la superstructure des cabines, des passerelles, des mâts, des cheminées, enfin, tout ce qui est nécessaire extérieurement à la vie et à la marche du vaisseau. Au-dessus de la seconde, nous voyons les cabines des officiers supérieurs, les carrés, l'installation du haut personnel du bord, les salles à manger, les cabines des passagers, des fonctionnaires, etc. Au-dessus de la troisième, en dehors des postes de l'équipage et des surveillants, on n'aperçoit que des hommes entassés, empilés dans des cages, et ne disposant que de 50 cm² pour se mouvoir. De lourdes grilles de fer, contre lesquelles des hommes pâles sont assis,
ramassant furieusement des miettes de pain qui suffisent à peine à endormir une faim inassouvie par des légumes secs ou détériorés, par une viande immangeable. Au-dessus de la quatrième, même tableau, mais avec des figures livides, des hommes qui n'ont plus faim pour la plupart, car ils ont la fièvre, que leur donne l'absorption continue d'un air vicié qui ne se renouvelle qu'en passant en haut par la poulaine. Ceux-là souffrent non pas seulement de la privation d'aliments, mais encore du manque absolu d'air et de lumière. À la ligne du dessous, les cachots, puis des cales noires pleines de tonneaux, des provisions, parmi lesquelles se meurent les commis, les riz pincelles de la navigation. Au-dessous, les soutes. S'il a trouvé le moyen de ficher son camp dans les cales ou dans les soutes, nous ne sommes pas près de l'avoir, murmura le commandant. On le traquera, mais il ne doit pas être bien loin, déclara de Vilaine. Le tout est de savoir le chemin qu'il a pris. Il n'a pas pu faire 10 pas sans rencontrer un garde. Tenons-nous prêts à toute éventualité. Ils armèrent leurs revolvers. Le second fit jouer sa petite lanterne sourde et ils ouvrirent la porte du cachot qu'ils repoussèrent immédiatement derrière eux. Les deux cadavres étaient là, la langue pendante et les yeux désorbités, chacun un lacet de souliers autour du cou. Après les avoir examinés un instant, Barachon se releva en frissonnant. « Ah, le bandit ! S'il me tombe sous la main, je le tue comme un chien enragé !» De Vilaine examinait les serres. Barachon se pencha à côté de lui. C'était un grand mystère, la chose absolument incompréhensible. La barre était encore fermée. Les maillons sanglants, la barre, le cadenas, tout était en place, comme le commandant l'avait constaté un peu plus d'une heure auparavant. Et Barachon ne s'était pas dessaisi de la clé un instant. Mais ceci encore n'était rien à côté de la stupéfaction qui les attendait. Rien dans le cachot ne pouvait expliquer la fuite. Par où chéri Bibi était-il sorti? Bien malin eût été celui qui aurait pu le soupçonner. Les murs n'étaient percés nulle part. Les ponts, en haut et en bas, étaient intacts. Les lourdes fermetures de la porte, en dehors et en dedans, n'étaient nullement forcées. Et l'homme n'avait pu sortir par une porte devant laquelle passait et repassait le surveillant militaire. Enfin, il n'eût pu se glisser dans le couloir fermé, où il se serait heurté à une demi-douzaine d'autres surveillants. Comment s'était-il évadé? « C'est à s'en arracher les cheveux !» grondait le commandant. « Tout bandit qu'il est, ça n'est pourtant pas le diable !»« Si, c'est le diable !» affirma de Vilaine. Mais nous n'en sommes pas plus avancés. » Ils se résolurent à interroger le surveillant et lui firent signe d'entrer dans le cachot. Le garde Choum, tout de suite, heurta du pied les cadavres. Il recula épouvanté. « Ce sont vos camarades. Chéri Bibi les a tués, » dit le commandant. « Les malheureux !» râla l'autre. « Ils s'y attendaient. »« Comment ? Ils s'y attendaient ?» Quand ils sont arrivés pour la garde, l'autre leur a dit « Ah, c'est vous ? Tant pis pour vous !» Et avant que je les enferme, ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il nous réserve un sale coup !» Je me suis moqué d'eux. J'ai regardé les fers et leur montrant leur revolver, je leur ai dit « Qu'est-ce que vous craignez ? Il a les pattes prises et vous êtes 2 contre 1. » Et là-dessus, j'ai refermé la porte. « Et vous n'avez rien entendu ?»« Rien, on n'a pas bougé, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas soufflé. Ah, les pauvres bougres! Mais par où l'autre est-il passé ?»« Écoutez, Pasco, j'ai confiance en vous, » fit le commandant. « Si ça n'était pas vous, je croirais que vous êtes complice. »« Complice de quoi, mon commandant ? Il n'y a pas à être complice ici. Nous nous surveillons tous les uns les autres. » « Nous sommes tous les uns sur les autres. Je n'ai pas quitté le couloir. Les camarades peuvent vous le dire. Et puis, j'aurais ouvert à chéri Bibi que ça n'expliquerait encore rien. Je n'ai pas la clé des fers. Et comment a-t-il assassiné les 2 autres qui étaient armés ? Et qui le surveillait, je vous prie de croire? C'est-il moi qui aurais assassiné des camarades? Faudrait le dire.
Silence, Pasco. Vous savez bien que c'est une façon de parler. On ne sait pas par où il est parti.
Oui, fit le garde, et il faut bien dire quelque chose. Mais il ne s'est pas envolé, quoi.
Ah, bien, en voilà une histoire, nom de...
Il chercha, lui aussi, une issue, un trou, quelque chose, et, comme ses clés, ne trouva rien.
« Ça, c'est pas croyable !»
fit-il, plus étonné encore qu'épouvanté.
« Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Ils le savaient là-haut, dans les cages.
Oui, ils se doutaient de quelque chose. Ils attendaient ça, foi de Pasco. Ils étaient trop contents, trop à la rigolade depuis 48 heures. Et je le disais encore ce matin. C'est pas naturel, on manigance quelque chose. Ouvrons l'œil. Et je vais vous donner, mon commandant, si vous le permettez, un bon conseil. C'est encore par eux qu'on saura quelque chose. Faut les écouter, v'là. »
Ils ne disent plus rien là-haut,
fit le commandant de sa voix sourde et menaçante.
Oh, sans avoir l'air de rien, laissez-leur faire la promenade sur le pont. Croyez-moi, c'est là qu'est la bourse au secret. J'ai idée que c'est à ce moment-là qu'ils communiquent tous les uns avec les autres. En tout cas, ils s'échangent là de la correspondance, vous savez. Et ce n'est pas notre faute, le plus souvent, je vous le jure, mon commandant. C'est la faute aux matelots.
Comment ça?
Expliquez-vous, voyons, Pasco. C'est grave ce que vous dites là.
Et la mort des camarades, c'est-il grave, oui ou non? Je vous dis que c'est la faute aux matelots et aux femmes.
Là, vous y êtes, mon commandant?
Je vous dis qu'ils échangent tout le temps entre eux, les hommes et les femmes, des petits billets doux. Ils se font les yeux doux sur le pont et s'écrivent en dessous, quand je vous le dis. Et le facteur, c'est le matelot. Un morceau de papier, c'est vite jeté, vite glissé entre deux barreaux, vous savez. Et c'est les femmes qui paient.
« Comment ça ? » demanda Vilaine, qui s'était toujours doutée de quelque chose, mais qui, malgré sa surveillance active, n'avait rien pu surprendre.
« Comment ça ? Mais les cachots sont là pour quelque chose, donc. »«
Les cachots ?
Oui, les cachots de femmes. Il y en a des femmes qui se font mettre au cachot, rien que pour causer plus à leur aise. »«
Expliquez-vous ! Expliquez-vous ! » !»«
Eh bien, voilà. C'est pas bien malin. Et ils en usent de ce truc-là, notre barbe. Quand le matelot et la femme se sont entendus entre eux, grâce au petit papier, la femme sait ce qu'elle doit faire. Se faire descendre pour insubordination, tout simplement. Or, le cachot reste ouvert quand il n'y a personne dedans. Eh bien, le matelot s'y est introduit et s'est blotti dans le coin formant lit de camp, ou plutôt sous l'appui qui sert à reposer la tête. L'obscurité est complète, on amène la femme et on l'enferme avec le matelot. C'est pas plus difficile que ça.
Vous savez ça, vous, Pasco, et vous ne l'avez pas dit? Vous mériteriez 8 jours de fer,
gronda le commandant. Mais Vilaine l'arrêta dans son accès de sévérité.
Ce que dit cet homme est tout à fait intéressant. Comment avez-vous découvert cela, vous?
Ah, je l'ai vu de mes propres yeux, et je n'en ai pas été bien fier pour le moment, je vous assure, mon commandant. C'était il y a 3 jours. J'étais chargé du service de propreté, qui ne se fait justement que tous les 3 jours. Je suis venu avec mes hommes dans les cachots, et j'ai pincé un délinquant qui était encore dans son coin.
« Comment ne me l'avez-vous pas amené ? »
interrogea Barachon, outré.
« Ah bien, mon commandant, parce que cette fois-là, c'était par hasard un surveillant militaire. »«
Un surveillant militaire ? Raison de plus ! Vous êtes gradé, vous mériteriez qu'on vous dégrade. Vous allez me dire son nom tout de suite. »
Oui, mon commandant. Il s'appelle Francesco, et il était né à Porto Vecchio.
Francesco, vous connaissez ça, de Vilaine?
Oui, mon commandant, répondit le second. Je le connais, et le voici.
Ce disant, monsieur de Vilaine poussa du pied l'un des cadavres étendus dans le cachot.
Il a fait sa peine, gémit Pasco. Maintenant, le malheureux, je peux le dénoncer. Mais il n'aurait jamais fait ça si les matelots ne lui avaient pas montré le chemin, bien sûr. Il a voulu profiter, lui aussi. Oh, c'est épouvantable. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Et maintenant, l'oie l'a bien puni. Je lui disais, « Prends garde, Francesco, ça te portera malheur d'avoir affaire avec les condamnés. » Mais il était très porté pour ce qui est de la chose, et il faisait toujours le beau quand son service l'appelait du côté de la cage des femmes. Tenez, il y en avait une à laquelle il ne manquait jamais de dire un mot aimable ou de faire quelque gâterie. On peut bien le dire maintenant qu'il est mort. C'était cette louve aux yeux noirs, vous savez, la femme du Canac. Non, non, vous ne savez pas. Eh bien, on l'appelle ici la comtesse, quoi. Justement, celle qu'on a descendue tout à l'heure. La femme qui s'était accrochée à vous, commandant, fit Vilaine. Ah oui, une vraie louve. Eh mais, s'écria Pasco, elle a bien dû entendre quelque chose, celle-là. Elle est enfermée dans le cachot à côté. Sur l'ordre du commandant, ils quittèrent immédiatement le cachot de Chéri Bibi et ouvrirent celui de la comtesse. Le silence régnait là-dedans, et la prisonnière ne donnait point signe de vie. Étonnés et de plus en plus inquiets, ils éclairèrent le cachot dans tous les coins. La comtesse n'y était plus.
« Ça, c'est encore plus fort que tout !» s'exclama le garde-chiourme.
Le lieutenant ne répondit pas, mais il avait repoussé avec précaution la planche qui servait de lit de camp, et le jet de lumière de sa petite lanterne sourde, dirigée vers le pont, il montrait au commandant un trou assez large pour qu'on s'y pût glisser. Barachon et le sergent allaient s'exclamer, mais le geste énergique du second les fit se taire. De Vilaine avait immédiatement éteint sa lumière, et ils ressortirent tous les trois sur la pointe des pieds. Tout doucement, ils refermèrent la porte. Les gardes-chiourmes, qui avaient leur service dans ce couloir, très intrigués par ces allées et venues, s'étaient arrêtés dans leur éternelle promenade.
« Marchez donc ! Qu'est-ce que vous attendez ?»
leur souffla le second. Ils se reprirent à marteler le pont de leurs lourds souliers. Barachon avait compris. Autant que possible, il ne fallait pas que ceux d'en bas se crussent déjà découverts. C'était bien leur avis à tous trois qu'ils s'étaient échappés par là. Ils ne pouvaient encore concevoir comment Chéri Bibi s'était délivré de ses gardiens et comment il avait rejoint la comtesse. Mais ils ne doutaient point que les deux condamnés eussent pris ce chemin. Et tout de suite, ils ne pensaient plus qu'à les rattraper. On descendait par ce trou dans d'anciennes soutes à munitions, transformées en cales à marchandises, et à peu près remplis de ballots destinés au commerce de Cayenne. S'ils pouvaient trouver là des coins où se cacher, les évadés, en tout cas, ne tiendraient pas le coup bien longtemps, car ils seraient fatalement traqués, découverts. On allait tenter de les surprendre par l'échelle qui descendait à la soute, car descendre par le trou, il n'y fallait pas songer. Tout l'équipage y passerait, et les hommes seraient assassinés un à un. Chéri Bibi n'avait pas l'habitude de cracher sur la besogne. N'écoutant que son courage, le commandant voulait se faire ouvrir l'échelle immédiatement. Mais De Vilaine lui fit entendre raison, et un peloton de 10 surveillants militaires fut commandé et amené là, avec le moins de mystère possible, par Pasco, qui était allé les chercher comme pour une besogne ordinaire. Il leur avait simplement recommandé de descendre avec leurs fusils, ce qui ne pouvait étonner personne, tout le monde étant armé dans cette caserne flottante. Les forçats avaient regardé passer ces hommes, comme ils en voyaient tous les jours, à toute heure, sans manifester le moindre étonnement, la plus petite curiosité. Seul, dans la cage des financiers, le nommé Boule de Gomme, de caractère hilar et banquier banqueroutier de son état, avait encore eu ce petit ricanement bizarre et insupportable qui rendait enragés les gardes-chiourmes. À ces hommes, le commandant dévoila la vérité. Ils se regardèrent avec terreur. Ils allaient avoir à combattre Chéri Bibi, qui était armé et qui s'était réfugié dans l'ancienne soute à munitions de l'avant après avoir assassiné deux des leurs. Sans doute, il brûlait de les venger. Mais quelle besogne! Comment allait-on s'y prendre? Le plan très simple, trop simple, que leur exposa le commandant, leur fit faire la grimace. Si, chéri Bibi découvert, l'homme se livrait sans résistance, il fallait l'épargner. On le jugerait selon les règlements, et il serait exécuté selon la loi. S'il se défendait, bien entendu, point de quartier, on le tuerait sur place.
Avez-vous quelque chose d'autre à proposer, mon cher de Vilaine ?
Fit le commandant en se tournant du côté de son second, suivant une habitude et un système qui lui faisait toujours consulter les moindres officiers sur les mesures à prendre en commun, même les plus graves. Ce n'était point que le brave homme manquât d'initiative ou redoutât les responsabilités, mais il tenait à ce qu'à son bord tout se passât comme il disait, en famille, entre ses subordonnés et lui, sous l'égide d'une discipline toute paternelle. De Vilaine bouillait. Il trouvait avec raison qu'on perdait du temps, mais puisqu'on lui demandait son avis, il allait le donner.
Chéri Bibi ne se défendra pas, probablement.
Il se défendra sûrement. Qu'a-t-il à gagner à nous épargner? Absolument rien. Il est sûr de son affaire. C'est une bête féroce. Avant de mourir, il ne tiendra qu'à une chose, en descendre le plus grand nombre. N'entrons donc point dans son jeu en nous exposant à ses coups. Dès qu'on aura ouvert l'échelle, je suis d'avis qu'on commence à déblayer le terrain. Une décharge générale autour de l'échelle est aussi brusque que possible, et puis nous sautons dans la soute. Le commandant répliqua « C'est moi qui descendrai le premier, en le sommant de se rendre, et vous me suivrez. »
« Bien, commandant. »
Quant aux gardes chourmes, ils étaient littéralement tremblants de l'aventure, tant chéri Bibi répandait la terreur. Mais De Vilaine avait déjà demandé des falots, des lanternes, car chaque homme devait pouvoir s'éclairer. Le lieutenant, prenant Pasco à part, lui dit « Vous êtes de service ici, vous y resterez. Surveillez le trou en silence avec deux de vos hommes. Si chéri Bibi et sa compagne essaient de sortir par là, faites-en votre affaire. » Pasco répondit, la voix sombre, qu'on pouvait compter sur lui. Au moment où l'on allait découvrir l'échelle, le commandant apprit aux hommes que chéri Bibi n'était pas seul, mais se trouvait là avec une femme qu'il fallait autant que possible épargner.
« Penses-tu ? » grognèrent les gardes chourmes quand ils surent qu'il s'agissait de la comtesse. « Elle est peut-être plus terrible que l'autre. »
Au milieu d'un grand silence, on ouvrit le trou de l'échelle. Le commandant descendit rapidement les premiers échelons, se maintenant d'une main et tenant son revolver de l'autre.
« Rendez-vous, le 3216 »
cria-t-il d'une voix terne. La lumière des falots n'éclairait qu'une très petite partie de la cale, où l'on apercevait des montagnes de ballots entassés, arrimés avec soin de chaque côté du petit chemin de bois appelé « plateforme de cale » qui aboutissait au bas de l'échelle. À quelques mètres de là, c'étaient les ténèbres les plus opaques, et partout régnait le plus effrayant silence. Rien ne venait le troubler, pas même le bruit de la respiration des hommes au haut de l'échelle. La vie de tous paraissait comme suspendue au-dessus de ce trou noir, de ce gouffre mystérieux où la mort préparait ses coups. Et le commandant restait là, exposé, la poitrine offerte au bal du terrible chéri Bibi et de la louve, sa compagne.
« Prenez garde !» fit tout à coup le second. « Prenez garde, commandant, j'ai vu remuer quelque chose là-bas, derrière ce ballot. »
Il n'eut même pas besoin de commander le feu. Une détonation infernale éclata dans la cale. C'étaient les surveillants militaires qui tiraient au-dessus de leurs deux chefs dans la direction du ballot indiqué. Le commandant et le second avaient sauté. Les hommes dégringolèrent à leur tour, et ils restèrent tous un instant, en groupe, derrière le commandant, qui les arrêtait de ses deux bras étendus. Les falots, au point des hommes, avaient fait reculer les ténèbres de quelques mètres sur ce petit chemin central au-dessus des planches. Et les ténèbres, le bruit et l'écho sourd de l'explosion éteint, était redevenue aussi muette, aussi mystérieuse, aussi menaçante. Alors Barachon recommença à faire entendre sa sommation. « Le 3216, voulez-vous vous rendre ?» Mais soit qu'il ne voulut pas se rendre, soit qu'il n'entendit pas, le 3216 ne répondit point. « En avant !» commanda Barachon. « Et fouillez tout !» Sur les traces de leur chef, les surveillants militaires se précipitèrent. Au fond, cet examen de cale n'était pas aussi compliqué qu'on eût pu le croire au premier abord. Tout était tassé là-dedans à ne point pouvoir, entre deux ballots ou deux caisses, glisser un doigt. L'arrimage avait été scientifiquement établi de telle sorte qu'aucun accident ne put survenir dans la marchandise. Sur l'ordre de Vilaine, qui, lui, resta debout, les hommes s'étaient glissés à genoux sur les plateformes de cale, grouillant à quatre pattes, comme des bêtes, sur les panneaux de bois établis au-dessus des petits fonds. Le chemin se partageait en croix, deux branches traversant de bord en bord le vaisseau et les deux autres suivant sa ligne d'avant-arrière. Ils eurent au fait de parcourir tout l'espace laissé libre dans cette cale d'avant. Ils ne virent rien, ne furent arrêtés par rien.
« Ils sont pourtant ici !» gronda le commandant. « Ils ne peuvent être sortis d'ici, à moins qu'ils ne soient ressortis par leur trou. »«
Impossible !» déclara Vilaine. « Parce qu'on veille là-haut avec deux hommes. »«
Donc, ils n'ont pu s'échapper. Cherchons encore. La soute n'a plus d'autre ouverture. Tout est clos. Ils sont ici. »
On remua quelques ballots qui paraissaient dépasser la ligne d'arrimage, mais on ne découvrit rien, et il fallut les recaler. Des fûts furent déplacés lourdement. Il n'y avait rien derrière. De Vilaine était le plus actif et fouillait l'ombre méthodiquement. Ses investigations ne furent pas plus heureuses que celles des autres. Tout à coup, un coup de revolver retentit et une balle vint siffler aux oreilles du commandant. Tous tirèrent. Ce fut encore un vacarme épouvantable.
Sur quoi avait-on tiré? De quel côté? Un vrai miracle qu'on ne se fût pas tué à bout portant.
Cependant, un homme, étendu là-bas, tout au fond de la cale, poussait des gémissements. On se précipitait. Il avait une balle dans le bras, une balle envoyée par un camarade. Il expliqua que c'était lui qui avait tiré le premier. Sa balle avait dû ricocher aux oreilles du commandant. Mais sur quoi avait-il tiré? Il ne s'en rendait pas compte exactement. Sans doute sur une ombre qui lui avait filé entre les jambes, sur un rat énorme qui avait disparu là, sous cette planche. Alors, on découvrit que cette planche, soulevée, donnait accès au grand drain.
« Malheur !» s'exclama le commandant. « Ils ont eu le culot de ficher le camp par là !»
Ce grand drain, la sentine du navire, était la dernière chose qui fut au fond du bâtiment. Un étroit boyau dans lequel venaient se déverser toutes les eaux du bord. Quand il était plein, on le vidait avec les pompes. Dans le moment, il ne l'était qu'à moitié. Pour oser prendre un chemin pareil, même quand on s'appelle Chéri Bibi, il faut sentir la mort à ses trousses. Le commandant était au désespoir.
« Maintenant, ils sont où ils veulent »
fit-il à De Vilaine sur le ton le plus lugubre. « Avec ce drain, des démons comme eux peuvent communiquer partout. Ce ne sont pas les panneaux à soulever qui les gêneront longtemps, et ils entreront où il leur plaira. Où irons-nous les chercher? Qu'à l'arrière, qu'à l'avant, dans les soutes? Des anciennes soutes à munitions, ils gagneront les soutes à charbon. Ils se promèneront chez nous comme chez eux, et nous n'y verrons que du feu.
S'ils sont dans le drain, ce qui n'est pas encore prouvé, répondit De Vilaine, on peut à tout hasard leur envoyer quelques coups de revolver.
Couché au-dessus du panneau, il déchargea son arme, puis attendit l'oreille au guet. Il ne perçut que le clapotis des eaux. Se releva et dit « C'est bien simple, il faut vider toute la cale pour retrouver ce couple-là. » Et il rassembla ses hommes près de l'échelle. Celui qui avait une balle dans le bras se plaignait comme un enfant. Le commandant le fit taire. « Vous allez aller à l'infirmerie, mon garçon. On vous questionnera. Du reste, tout le monde en ce moment doit déjà être au courant des faits. À ceux qui vous en parleront, vous annoncerez que Chéri Bibi est mort. Vous avez compris, vous autres ?»«
Oui, oui, » répondirent les gardes chourme.
« Vous pouvez compter sur nous, mon commandant. Les bagnards seraient trop contents. »
Chapitre 3. Sœur Sainte-Marie des Anges. Barachon laissa 6 hommes dans la cale, dont 2 ne devaient pas quitter le panneau du drain.
S'ils ne sont pas déjà morts, ils vont se noyer là-dedans,
fit un garde chourme qui avait examiné de plus près le niveau de l'eau.
Il n'y a pas seulement de quoi se tenir la tête droite pour respirer.
Pour moi, ils n'en sortiront pas, ajouta un autre.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne vont pourtant pas remonter par le tuyau des pompes.
Le commandant et le second allèrent rejoindre Pascot dans le cachot abandonné par la comtesse.
« Eh bien ? » demanda le sergent. « C'est fait ?»«
Rien, nous ne l'avons pas trouvé, »
lui répondit Barachon quand il eut congédié ses hommes. « Seulement les surveillants répandent la nouvelle de la mort de Chéri Bibi pour que personne ne s'affole. » Pascot aussi exprima qu'on avait raison, à cause des forçats.
« Et vous n'avez rien découvert ?»
interrogea de Vilaine. Le sergent secoua la tête.
« Qu'il se soit enfui, dit-il, c'est compréhensible, puisqu'il y a un trou. Mais c'est l'autre qu'il faudrait savoir par où il est passé. Ça, vous savez, tenez, j'ai cherché partout. Eh bien, il n'y a pas de communication, n'y en a pas. Le cachot de Chéri Bibi reste aussi fermé que quand il y était. Alors, c'est de la prestidigitation, ça, ou bien de la sorcellerie. Il n'y a pas à sortir de là. »
Dans le cachot de Chéri Bibi, ils se retrouvèrent en face des cadavres et du même problème. Et ils n'en furent pas plus avancés. Après avoir fait jeter sur les 2 corps une bâche et avoir laissé près d'eux 2 falots qui avaient mission de brûler là comme cierge mortuaire, le commandant et 2 vilaines remontèrent sur le pont. Tout le Bayard ne parlait déjà que du formidable événement, la mort de Chéri Bibi. On l'avait fusillé à bout portant dans la cale, où il avait tenté de s'enfuir avec une reléguée, la femme du Canac. Celle-ci était blessée, on donnait des détails. Elle s'était défendue comme une lionne. Suivant les circonstances, la comtesse, en effet, dans l'imagination du bord, changeait de personnalité animale. Tantôt c'était une louve pour la sauvagerie, une tigresse pour la férocité et une lionne pour le courage. C'était surtout dans les groupes de fonctionnaires qui allaient rejoindre leur poste et dans les familles de surveillants qui se tenaient dans la journée cantonnés tous à l'arrière du bâtiment, sur la dunette, que les potins du bord prenaient une ampleur démesurée. Ce jour-là, les jeunes femmes avaient cessé de chanter, les enfants de jouer, et le nom de Chéri Bibi était dans toutes les bouches. C'était, à l'ordinaire, le seul coin gai de cette citadelle flottante, où, par ailleurs, les yeux n'apercevaient que grilles, fusils, uniformes, revolvers, képis plus ou moins galonnés. La nouvelle de la mort de Chéri Bibi y fut accueillie avec une allégresse particulière. On en avait tant raconté sur le bandit que ces dames étaient tout à fait heureuses d'en être débarrassées, pour elles et pour leur mari. Elles étaient au courant des moindres particularités concernant les forçats, pour les avoir examinées avec curiosité, quand ceux-ci venaient, par série, respirer l'air du large, en tournant en rond sur la plage d'avant, sous la menace éternelle des fusils. Elle n'aurait certes pas confondu boule de gomme et petit bon Dieu, bien qu'ils fussent ronds tous deux comme des toupies et portassent le même costume. Et elles étaient renseignées sur le casier judiciaire de chacun. Elles tiraient vanité de faire le voyage avec des noms célèbres qui avaient été dans tous les journaux. Elles échangeaient leurs impressions sur la mine des plus redoutables ou des plus affalées.
Gueule de Bois et le Canac les avaient longtemps intéressés. Et puis tout s'use. Il n'y avait que Chéri Bibi qui ne s'usait pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne le voyait pas. Chéri Bibi avait toujours refusé de profiter de la promenade sur le pont, et avec tant d'obstination qu'on avait fini par le laisser tranquille. Chéri Bibi repoussait les faveurs du commandant. Chéri Bibi restait vautré dans sa cage ou dans son cachot et ne voulait pas se montrer. Et maintenant, elle ne le verrait plus jamais, malgré le désir aigu qu'elles en avaient eu. Il était mort. Quand le commandant et le second traversèrent le pont pour se rendre à la chambre de veille où se trouvait l'officier de route, le jeune enseigne de vaisseau de Kérosguette, elle les aurait volontiers acclamés. Mais elles aussi avaient leur discipline et elles se tinrent tranquilles. Elles auraient bien voulu savoir ce que disaient les forçats en bas, dans les bagnes. Ainsi appelaient-elles les cages, selon le langage administratif. Mais les forçats ne disaient rien du tout. Le silence continuait. Et c'est ce curieux silence qui était l'objet des discussions du commandant, du second, de l'officier de route, de l'inspecteur et du surveillant général dans la chambre de veille où ils s'étaient réunis pour tenir une sorte de conseil de guerre. Barachon avait choisi cet endroit de préférence à tout autre à cause que, de là-haut, il dominait tout le bâtiment et, par les hublots, pouvait facilement voir ce qui se passait sur le pont. L'officier de route, l'inspecteur et le surveillant général avaient appris la vérité avec consternation. Chéri Bibi n'était pas mort. Chéri Bibi était quelque part dans le bâtiment. Il était trop tard maintenant pour faire ouvrir, comme le proposait le commandant, toutes les écoutilles, tous les panneaux de cale, et faire descendre, en même temps et par toutes les ouvertures, tous les surveillants militaires disponibles et tous les matelots armés, et pour se livrer à une chasse rapide et générale qui n'aurait pu manquer finalement de donner un résultat. Ce plan fut adopté pour le lendemain à la première heure. En attendant, il fut décidé que, devant toutes les ouvertures, devant chaque échelle, dans chaque couloir, même ceux conduisant au logement des passagers et des officiers, des sentinelles veilleraient toute la nuit, et que 50 gardes chiourmes, revolvers au poing, ne cesseraient jusqu'au matin de passer devant les cages, dans la batterie basse et dans la batterie haute. S'il y a encore des forçats qui doutent de la mort de Chéri Bibi, voilà une mesure qui les tranquillisera, fit le jeune de Kérosguette. Oh, nous ne leur apprendrons rien, déclara l'inspecteur. Ils savent à quoi s'en tenir dès maintenant, pour la simple raison qu'ils savent tout ce qui se passe à bord avant nous. Et pour moi, ils attendent quelque chose, en silence, et quelque chose que nous ne savons pas, nous. C'est l'impression qu'ils me donnent également, approuva le surveillant général. Je ne les ai jamais vus ainsi. Ils se sont donné le mot d'ordre dans toutes les cages. On dirait qu'ils redoutent de provoquer un incident qui ferait éclater trop tôt cette chose que nous ne savons pas.
Que peuvent-ils faire ? Demanda de Vilaine.
Nous les fusillerons comme des lapins. « Ce serait bien de l'ennui après, » fit entendre l'inspecteur.
« Eh, monsieur, » grogna Barachon, « il eût certainement été préférable de les surveiller mieux avant. »
Et, sans nommer Pasco, il lui dévoila le truc de la correspondance des plus actives à laquelle tout ce beau monde se livrait par le truchement des matelots, des femmes et de l'amour. Il fut heureux de lui servir l'affaire du cachot dans laquelle on avait surpris ce pauvre Francesco de Porto Vecchio.
« Ça !» fit l'inspecteur écarlate sous le savon qu'on lui servait. « Ça ! On ne les empêchera jamais d'écrire aux femmes. Je ne sais pas comment ils font. Ils n'ont ni encre, ni plume, ni crayon, ni papier, ni rien. Enfin, on les fouille et on les refouille, et cela ne les empêche pas d'écrire. » Et rien ne les empêche de se payer des litres de rhum. Nous l'avons vu tantôt. Mon commandant, ce n'est pas la première fois que j'y perds mon latin.
Vous ne savez pas comment chéri Bibi est sorti. Moi, je ne sais pas comment les bouteilles sont entrées. Tenez, regardez-les en ce moment. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. »
Et il montrait par le hublot la promenade dolente des quelques bagnards dont c'était le tour de venir prendre l'air. Justement, il y avait là Gueule de Bois, le Canac, Petit Bon Dieu et le Rouquin. Pendant les quelques minutes où il leur fut permis de s'étaler sur le pont, sous le regard vigilant des gardiens, ils bâillèrent d'abord à se décrocher les mâchoires, et puis parlèrent philosophie. Avaient-ils la sensation qu'on espionnait tout ce qu'ils disaient? Il n'était point possible que la nouvelle de la mort de chéri Bibi, criée de batterie en batterie par les gardes de Chiourme, les laissât à ce point indifférents. Et cependant, le Canac disait avec nonchalance « Quelle tristesse a dû être pour notre pauvre chéri Bibi d'être mort sans avoir revu le bagne. Il m'en parlait il y a quelques jours encore, et me disait sa joie de retrouver un pays où il avait goûté, pour la première fois de sa vie, un peu de tranquillité.
« S'il y était si chanceux que ça, dit le Rouquin, je vois pas pourquoi qu'il en serait parti. »
« C'est la faute de l'or, expliqua le Canac. « Oui, il m'a raconté ça, et je vais vous le rapporter, parce qu'après tout, pour ceux qui aiment ce métal-là, ça pourra leur mettre un peu de cœur au ventre. À ce qu'il paraît que là-bas, à la Guyane, il y a une mine d'or qui n'est connue que des bagnards. L'administration a tout fait pour la découvrir, mais ça a été comme des nèfles. Pendant ce temps-là, les relingues exploitent la mine en commun. Chacun s'évade à tour de rôle, va travailler au placé, revient avec de l'or et fait faire la fête à la communauté. Bien entendu que lorsque le bagnard revient, il n'y coupe pas de quelques jours de prison. Mais qu'est-ce que ça fait s'il est riche? Eh bien, un jour, chéri Bibi est revenu trop riche, si riche qu'il a pu acheter un canot et la conscience de deux artoupans. Avec ça, il a gagné le marronnier et a pu revenir en France, où, dit-il, il s'est bien embêté. Il voulait redevenir honnête, et il n'a pas pu. Et puis, il n'avait plus le sou. Alors, il a travaillé pour revoir les Aminches. Mais c'est fini. Il ne les reverra plus. Pauvre chéri Bibi. Les autres reprirent en chœur avec un même soupir. Pauvre chéri Bibi.
Ce que c'est que nous, reprit Petit Bon Dieu, après un moment de silence, donné sans doute à la mémoire du défunt.
Il était dans la force de l'âge.
Et costaud,
avança Gueule de Bois.
Et costaud, mais voilà, il n'a pas su commander son tempérament.
Nous sommes tous victimes de notre tempérament, conférencia l'ex-marchand de mort subite.
Toi, Gueule de Bois, t'es bilieux. C'est le tempérament des êtres sublimes et dangereux qui accomplissent de grands travaux sur la terre. Tes travaux ont été des crimes, Gueule de Bois. C'est pas de ta faute. Tu diras ça de ma part au grand Dab quand le moment sera venu de lui rendre tes comptes. Toi, Petit Bon Dieu, t'es lymphatique, c'est-à-dire que tu es né paresseux et découragé. Il n'y avait rien à faire pour toi, pauvre enfant, avec une pareille malchance. Car tu sais aussi bien que le Canac que la paresse est la mère de tous les vices. Quant au Rouquin, c'est un sanguin, passion vive, instantanée, fougueuse, caractère difficile. Enfin quoi, il n'y a qu'une chose qui plaît dans sa faveur, c'est sa mauvaise nature.
Comme il jacte bien, fit le Rouquin.
Mais dis donc, mon vieil IPK, tu sais pas ce qu'on raconte? On dit que ta comtesse s'est défilée avec le Dab.
Si ça lui chante, exprima le Canac indifférent. Il y a longtemps que madame et moi nous sommes en froid.
À ce moment, Gueule de Bois s'était entièrement allongé sur le pont, dans une somnolence apparente,
et la main sous le bonnet jetée à côté de lui, s'occupait sérieusement à glisser, dans une fente qu'il avait trouvée entre deux lattes du pont, un petit billet qui ne tenait pas plus de place qu'un timbre. L'opération terminée, il se releva le plus naturellement du monde, et sous la poussée des gardes chiourmes qui les chassaient devant eux comme du bétail, les bagnards reprirent le chemin des entreponts. Ils étaient d'une douceur extraordinaire, sous les coups de gueule et les coups de crosse des artoupans. Petit bon Dieu devenait même idyllique. Il dit à une jeune volaille qui allongeait son bec entre les barreaux de la cage à poules. « Tu es bien heureuse, toi. Tu peux voir tous les jours le lever du soleil. » « Tâche que ça dure !» crut devoir ajouter le canaque. Et comme, à la descente, l'ancien médecin et l'ex-clerc d'huissier se faisaient des politesses à qui passerait le premier, ils reçurent tous les deux un bon coup de pied dans le derrière. « Pour vous mettre d'accord !» fit l'artoupan en leur poussant sous le nez son revolver, car il s'était retourné, furieux d'un aussi grossier outrage. « Ben quoi ?» continua le garde-choum. « Ces messieurs vont m'envoyer leurs témoins ?» Toute la série se mit à rire. Vous voyez comme ils sont gentils depuis que chéri Bibi est mort, fit remarquer un surveillant. Et il lança à toute volée la porte de la cage sur les doigts de petit bon Dieu, qui se gonflait les yeux au ciel. Malin, petit bon Dieu avait retiré sa patte, mais il était temps. À une autre fois, cher ami, fit petit bon Dieu au garde-chiourme. « Bonne nuit, cher ami, ne faites pas de mauvais rêves. » Et il accrocha son hamac en suppliant son voisin de ne pas lui donner la cale, car il tenait à voir la couleur du lendemain sans détérioration. Pendant ce temps, il se passait sur le pont, à l'endroit même que venaient de quitter les bagnards, quelque chose de fort intéressant. L'officier de route, M. de Kérosgouette, se promenait d'un air pensif autour des cages à poules et du réduit du bétail vivant, tantôt levant les yeux au ciel, comme s'il voulait consulter le temps, et tantôt ramenant son regard à ses pieds, dans l'attitude d'une personne qui réfléchit profondément. La brise était bonne encore, bien que, malheureusement, elle halât encore le nord-ouest, mais ce n'était point ce détail qui eût pu donner à l'officier quelque inquiétude. Enfin, pourquoi était-il là? Il eût dû se trouver dans la chambre de veille. Tout à coup, ses préoccupations semblèrent cesser. L'enseigne suspendit sa promenade et tout doucement, négligemment, après s'être arrêté une seconde devant un groupe de matelots qui mettaient à mort un bœuf, coupable de s'être cassé deux pattes au moment du gros temps, il regagna la chambre de veille que les officiers supérieurs n'avaient pas quittée, examinant les allées et venues du jeune officier par les hublots. « Eh bien ?» demanda le commandant. « Eh bien, ça y est, j'avais raison. Le nommé Gueule de Bois a glissé un petit papier entre deux lattes du pont. Pourquoi ne nous l'apportez-vous pas ?»« Parce qu'il sera toujours temps de le prendre sur celui qui viendra le chercher. »« Parfaitement, » acquiesça le second. « Dispersons-nous, que chacun aille à ses affaires, comme si chéri Bibi était toujours dans son cachot, ou comme s'il n'existait plus. » « Moi, je reste à mon poste, à surveiller le dernier acte de la comédie, » fit Kérosgouette. Mais comme ils étaient sur le point de se séparer, leur attention fut retenue par l'apparition d'un nouveau personnage qui se promenait sur le pont, comme l'avait fait tout à l'heure de Kérosgouette, avec des manières pensives et cependant, de temps à autre, investigatrice. L'étonnement de tous était sans bornes, car ce personnage avait une cornette, la large cornette aux ailes relevées des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et sous cette cornette, il pouvait apercevoir le doux, et pâle, et triste, et honnête visage de sœur Sainte-Marie des Anges. Cette religieuse, que l'administration avait fait embarquer à destination de l'hôpital de Cayenne, où sœur Sainte-Marie avait demandé héroïquement à servir pour être plus près des plus malheureux des hommes, était aimé de tout le monde à bord, de l'équipage, des passagers et des forçats. Son aimable caractère, en dépit d'un fond de tristesse qui ne la quittait jamais, les petits services qu'elle ne cessait de rendre aux familles et aux enfants des surveillants, son intercession auprès des autorités en faveur des bandits qui mouraient de chaleur, de faim et de soif au fond des cachots ou des bagnes, enfin sa douce beauté, avait eu vite fait de la rendre populaire. Cependant, quand sœur Sainte-Marie ne parvenait point à faire fléchir la discipline, elle était la première à s'incliner devant elle, si dure fut-elle pour les misérables qui paraissaient avoir la pitié de cette sainte fille. Était-il possible que dans ces conditions et avec ses vertus, sœur Sainte-Marie des Anges entrât sournoisement en correspondance avec cette abominable gueule de bois? Et cela au moment où le besoin se faisait sentir d'être plus sévère que jamais avec la chiourme. C'était si bien inimaginable qu'il fallut que les officiers vissent la chose de leurs propres yeux pour y croire. La sœur, après un dernier coup d'œil jeté autour d'elle, sur cette partie du pont désert, se baissa rapidement en feignant de ramasser un objet qu'elle aurait laissé tomber de ses larges manches. Or, ces manches, comme la casquette de gueule de bois tout à l'heure, restèrent un temps suffisant sur le pont pour que les petites mains qui étaient dessous pussent travailler à leur aise. Quand sœur Sainte-Marie des Anges se releva, elle n'avait plus cette belle pâleur qui lui donnait tant de charme sous la cornette. Elle était toute rouge. Elle s'assura vivement que personne ne l'avait vue se baisser, et elle s'en alla sur le pont, avec une légèreté qui semblait être aidée encore par les palpitantes ailes blanches de sa cornette. Cependant, elle dut, un moment, se détourner, car elle entendit un pas derrière elle. Elle reconnut le commandant, le salua et continua hâtivement son chemin. Jamais sœur Sainte-Marie n'avait marché si vite, mais le pas la suivait toujours. Ainsi arriva-t-elle légèrement essoufflée à sa cabine qui était sur l'arrière du bâtiment. Elle en poussa la porte et, sans se détourner, voulut la refermer. Mais une main s'y opposa et une voix dit « Pardon, ma sœur !» La religieuse avait encore changé de couleur. Elle était maintenant d'une pâleur mortelle. Elle regardait le commandant avec des yeux hagards et parvenait difficilement à balbutier « Que me voulez-vous ?»« Le billet que vous venez de ramasser sur le pont. » « Je n'ai rien ramassé, » fit-elle, toute prête à défaillir. « Je vous assure, commandant, que je ne sais ce que vous voulez dire. » « Si, ma sœur, et je suis effrayée de vous entendre commettre un pareil mensonge. » Elle recula comme si elle allait s'enfermer chez elle. Le commandant fit encore un pas. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Vous n'allez pas entrer chez moi !»« Je n'y entrerai pas si vous me donnez le billet. » Elle recula encore, et dans ses grandes manches, le commandant ne voyait plus ce que faisaient ses mains. Alors, il prit une grave résolution. Il entra carrément dans la cabine, mais il en laissa la porte ouverte. La sœur, pour ne point tomber, s'appuyait à la muraille. « Écoutez, fit le commandant, si vous ne faites pas ce que je vous demande, si vous ne me donnez pas ce mot écrit par un forçat, je vais être obligé d'appeler une sœur et de vous le faire prendre de force. » Elle ne répondit pas. L'autre continua. « Ce n'est point cela que vous désirez, n'est-ce pas? Mais que désirez-vous, en somme ? Pour communiquer ainsi avec les forçats en dehors de nous et malgré nous. Savez-vous bien que c'est une chose terrible qui pourrait entraîner pour vous les conséquences les plus regrettables ? » Ses yeux, d'abord brillants de colère, s'adoucirent. « Je sais ce que je dois à votre caractère, à la mission que vous vous êtes donnée ici-bas. Mais, sœur Marie, comprenez bien qu'il y a des choses que je ne puis permettre. Il ne faut pas, je ne veux pas, je n'admettrai pas, par exemple, que l'indiscipline prenne le visage de la charité. Pourquoi vous obstinez-vous? Prenez garde, je me verrai bientôt obligée de croire à autre chose qu'à une inconséquence de votre zèle chrétien, ma sœur. Car enfin, vous avez menti. Il faut appeler les choses par leur nom. Et pour que vous ayez menti, vous, il faut que vous ayez des motifs bien graves. Donnez-moi ce billet.
Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, monsieur. Je vous supplie. Croyez-moi et quittez-moi.
Elle tomba à ses pieds d'un bloc. Ses genoux heurtèrent brutalement le pont, mais le commandant n'était pas, dans le moment, disposé à la pitié.
Vous cachez vos mains. Montrez-moi vos mains.
Mais vous ne savez donc pas que votre attitude va nous donner le droit de tout croire. Depuis quelques jours, nous cherchons comment les forçats savent tout ce qui se passe ici, tout ce qui a été décidé contre eux pour la sécurité de tous. Nous cherchons, de notre côté, comment ils communiquent entre eux, de cage à cage, de batterie à batterie, et arrivent ainsi à former un mystérieux complot dont nous ignorons la nature, mais que nous pressentons menaçant. Qui les renseigne? Qui est leur instrument? Serait-ce vous, par hasard, sœur Sainte Marie des Anges? Oh, inconsciemment, je veux le croire, et encore pour que je le croie, il me faut ce papier.
Il lui saisit brusquement les mains et le lui arracha.
C'était un petit bout de papier de rien du tout, sur lequel étaient simplement écrits ces mots « Chéri Bibi n'est pas mort ». Le commandant, stupéfait plus qu'on ne saurait le dire, lut la courte phrase tout haut. Aussitôt, la sœur poussa un léger soupir, glissa sur le plancher de sa cabine et s'évanouit.
« Qu'est-ce que peut bien lui faire chéri Bibi ?» se demanda Barachon. « Voilà qui est tout à fait étrange !»
Il appela les femmes qui accoururent et se mirent en mesure de faire revenir à elles sœur Sainte Marie des Anges. Affolées, elles avaient demandé au commandant ce qui lui était arrivé. Mais celui-ci, pensif, s'était éloigné sans répondre.
Non, chéri Bibi n'était pas mort. Tout le monde le savait maintenant à bord. Nul n'ignorait plus l'épouvantable drame. Et lorsque, le soir venu, une funèbre civière, sur laquelle on avait jeté un drap, fut montée mystérieusement des profondeurs du faux pont, chacun savait à quoi s'en tenir sur ce qu'il y avait dessous. Les deux gardes assassinés avaient femmes et enfants, auxquels on essaya du reste point de cacher plus longtemps le malheur. Et leurs gémissements et leur désespoir ne tardèrent point à gagner toute la petite colonie des familles des surveillants militaires. Ce furent des malédictions contre chéri Bibi, et ce fut aussi de la terreur pour tous. Les ombres de la nuit ajoutèrent à l'épouvante. Ceux qui le pouvaient s'enfermèrent chez eux, mais personne ne dormit, et hommes et femmes restèrent armés jusqu'au jour. Mais où était-il le bandit? Pour disparaître ainsi, il lui était loisible d'apparaître quand il voudrait. Tout lui était possible. On le redoutait comme un fantôme, pour qui il n'y a plus de loi naturelle ni humaine, et qui peut errer partout sans connaître les obstacles qui s'opposent à la marche des autres hommes vivants. Les matelots eux-mêmes n'étaient pas plus rassurés. Dans tous les postes, à l'heure de la soupe, on ne parla que de ce singulier prisonnier qui avait réussi à s'envoler de ses fers. L'esprit superstitieux des marins, dont beaucoup étaient bretons, s'en mêla, et puisque, chrétiennement, on ne pouvait s'expliquer son évasion, il fallait bien qu'il eût le diable avec lui. On avait beau avoir doublé tous les services des gardes, avoir mis des sentinelles partout, on craignait à chaque instant qu'il ne lui prît la fantaisie de commettre quelque nouveau crime et puis de disparaître. C'était le mal sur la terre que ce chéri Bibi. Et voilà qu'il se promenait maintenant en liberté à bord du Bayard, avec cette femme qui avait les yeux noirs de l'enfer.
Quand une porte s'ouvrait, chacun regardait peureusement de ce côté-là. Les conversations cessaient, les respirations restaient suspendues. Et puis un soupir s'échappait de toutes les poitrines. C'était la ficelle qui apportait le fricot. La ficelle était du reste le plus peureux de tous. Se faisant accompagner dans les entrepôts par des amis armés jusqu'aux dents, contant des histoires à donner le frisson aux plus braves. Et puis, il croyait voir Chéri Bibi partout, et il poussait des cris d'enfant devant son ombre à lui, qu'allongeait subitement l'allumage d'un fanot. Il arrivait, essoufflé, se laissait tomber sur un banc, se mettait une main sur son cœur battant. « Ah, mes enfants ! Mes enfants ! Pour sûr, c'était lui. J'ai reconnu ses yeux, là, tout à l'heure, dans la batterie. Et puis, plus rien. Pout, il a disparu. » En haut, sur le pont, on n'était pas plus rassuré. Loin de là. Ceux qui étaient de service ou de veille reconnaissaient également Chéri Bibi dans les formes les plus naturelles surgies dans la nuit claire, au coin des escaliers, des dunettes, des passerelles, et jusque sous les bossoirs des embarcations. De vieux matelots, se grisant de leur propre effroi, passèrent le quart à se raconter les histoires de revenants les plus épouvantables. L'ombre du vaisseau fantôme dansait sur la mer, et celle du Hollandais volant glissait sous la lune. Il n'y avait que dans les bagnes que l'on dormait en toute paix et tranquillité. Le Bayard se trouvait alors par 32°20 de latitude nord et 24°50 de longitude à l'ouest du méridien de Paris. Il avait dépassé l'escale de Madère, laissé sur sa gauche le pic de Tenerife et, abandonnant les parages africains, mettait le cap sur le plein Atlantique.